déclics, le football dans tous ses états, avec Vincent Duluc et André Dussolier. En 1939, Albert Camus écrivait « Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui restent mes vraies universités. » Camus avait occupé le poste de gardien de but de l'équipe de l'université d'Alger. Il parlait donc de la pratique de ce sport collectif et non du spectacle sportif. Mais le spectacle aussi pouvait être une école de morale. Le public, massé dans les tribunes, s'énervait, se passionnait, se désolait, s'enthousiasmait et apprenait à perdre, à accepter la défaite. Le fair play était une qualité partagée par les joueurs et les supporters. Je me rappelle avec émotion les matchs Racing-Reims, les classicos des années 60, où mon père m'amenait. Les spectateurs du Parc des Princes applaudissaient les belles actions de l'équipe adverse. Chaque fois que j'évoque ce souvenir devant mon fils, il pousse un soupir tout à la fois exaspéré et compatissant. « Tu me l'as dit 100 fois, papa. Change de disque, je t'en supplie. Si tu savais comme tu me fatigues avec ton « c'était mieux avant ». Peut-être en effet suis-je exagérément enclin à la nostalgie. Mais il me semble qu'une réflexion sur l'évolution du sport le plus populaire et le plus regardé sur les 5 continents doit être impérativement menée, car elle nous dit quelque chose du monde où nous vivons. J'ai donc invité à cet effet un grand spécialiste, Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, et un grand amateur, André Dussolier, qui était un joueur à la Beckenbauer et qui, quand ses tournages lui en laissent le temps, aime à regarder les matchs et les commente avec une acuité extrême. Ma première question portera sur un événement qui a mis toute la planète football sans dessus-dessous et qui me paraît très symptomatique. Le transfert au Paris Saint-Germain de Lionel Messi, que l'on considère comme le meilleur joueur de tous les temps et qui, depuis ses débuts, était resté fidèle au Football Club de Barcelone. Qu'est-ce que ce transfert nous apprend sur la réalité actuelle du football ? Vincent Duluc.
Ça nous apprend déjà que c'est un transfert qui va d'une richesse à une autre, d'une richesse ancienne à une richesse moderne. Aujourd'hui, les actionnaires du football, les propriétaires des clubs sont parfois des États. On le voit à Manchester City avec Abu Dhabi, on le voit effectivement au Paris Saint-Germain avec le Qatar, et aujourd'hui les moyens du Qatar sont extrêmement supérieurs à ceux de Barcelone, qui est un club complètement endetté, qui est un club qui ne pouvait pas conserver Messi. Alors effectivement, on peut estimer que cette rupture de la fidélité et ce transfert quand même un peu crépusculaire d'un Kylian Messi est une brèche qui nous dit pique pendre du football moderne. Mais c'est aussi une logique, c'est aussi malheureusement une logique du marché, et c'est que Barcelone est une royauté en péril, et son système économique était aussi assez inégalitaire dans le reste de l'Europe avant, et aujourd'hui l'inégalité s'est déplacée, et elle s'est déplacée jusqu'à Paris.
Oui, alors, vous dites que le Football Club Barcelone n'avait plus assez d'argent pour payer Messi, mais ce qui a endetté le Football Club de Barcelone, ce sont précisément les salaires faramineux de Messi. J'ai appris en lisant un livre d'Olivier Guèze que Messi avait fraudé le fisc espagnol et que les amendes ont été compensées par une prime à la signature de 100 millions d'euros lors du renouvellement de son contrat à Barcelone en 2017. 7. En effet, à chaque renouvellement de contrat, son salaire augmentait, le salaire des autres joueurs augmentait aussi, même si c'était pas dans les mêmes proportions. Résultat, la masse salariale du Football Club de Barcelone devenait monstrueuse, et ce club est exsangue aujourd'hui, mais Messi, semble-t-il, ou son père, porte une certaine responsabilité dans cet état des choses.
On peut l'estimer, mais en même temps, je pense qu'il y a deux autres phénomènes qui sont plus importants que le salaire de Messi, parce que le vrai problème dans le football, c'est que ce ne sont pas les très grands joueurs qui coûtent cher, ce sont les joueurs moyens. Messi, lui, suscite de la richesse, ce sont les autres qui suscitent du déficit. Et c'est la même chose au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, par exemple, ils ont 9 gardiens sous contrat, ils en avaient un, Alphonse Areola, qui ne jouait plus et qui était à 700 000 euros par mois. Donc les joueurs qui creusent le déficit, ce sont souvent les joueurs moyens. À Barcelone, il y avait un autre phénomène, c'est en dehors de ce phénomène qu'effectivement les joueurs autour de Messi étaient aspirés, j'allais dire salarialement, par l'aura de Messi à des hauteurs que leur talent ne méritait pas. Mais l'autre aspect, c'est que ce sont des clubs où les présidents sont élus. Et donc les présidents, pour être réélus, sont obligés de promettre des stars, à des salaires de stars, sans souci de l'équilibre de l'équipe ni de l'équilibre des comptes. Donc il y a comme ça toute une convergence de phénomènes qui ont abouti au transfert de Messi au Paris Saint-Germain.
André Dussolier.
Oui, on a l'impression d'assister à une surenchère aussi. C'est vrai que quand il y a des leaders, évidemment, le reste suit aussi. Et donc, comme le dit Vincent Duduc, il y a des autres joueurs aussi dont les salaires sont surévalués. Mais j'ai l'impression aussi qu'on avait des signaux d'alerte en Espagne. J'ai l'impression que le fisc espagnol était assez complaisant, ou l'État espagnol était complaisant pour maintenir en survie des clubs comme Barcelone, comme le Real de Madrid, jusqu'à ce moment, en effet, tout à fait inattendu, où on voit que Messi ne peut plus rester à Barcelone et qu'il vient naturellement, mais c'était une grande surprise, y compris pour Mbappé apparemment, qu'il vienne à Paris. Donc c'est vrai qu'il y a une inflation en tout cas qui touche presque tous les joueurs, c'est vrai les gros salaires mais aussi les autres, non?
Oui,
absolument André, il y a Vincent Deluc. Une inflation, mais il est évident qu'on peut également, il faut aussi considérer que la coupure due au Covid a aussi creusé quelques déficits et augmenté les difficultés. Effectivement, il faut être un club comme le PSG et n'avoir pas de limite dans l'investissement pour pouvoir surfer aussi allègrement sur cette période difficile qui a vraiment endetté les autres. Et ce qui est significatif, c'est que le Paris Saint-Germain a recruté les derniers 4 joueurs en fin de contrat. C'est-à-dire que quand un joueur est en fin de contrat, il n'est pas susceptible de donner lieu à des indemnités de transfert. Il peut avoir une prime à la signature, mais pas d'indemnités de transfert. Et ça, c'est vraiment le signe que seul le salaire et proposé par le PSG à attirer ses joueurs, en même temps qu'éventuellement sa notoriété, mais en tout cas qu'on était dans un moment creux de la santé économique du football européen.
Oui, alors on se demande, enfin, d'abord ce qui disparaît un peu, c'est l'incertitude du sport, parce que les victoires en championnat et en Ligue des Champions n'échappent plus aux clubs les plus riches. Et que se passera-t-il si, par exemple, le Paris Saint-Germain demain en Ligue des Champions, justement, bat le Football Club de Barcelone avec, pour atout maître, les deux joueurs, Neymar et Messi, qui l'ont crucifié lors de la fameuse et traumatisante remontada. Il y a quelque chose d'un peu absurde dans tout cela. C'est-à-dire les clubs les plus riches attirent les joueurs les meilleurs et les plus chers. Et l'époque où Auxerre pouvait être à la fois champion de France et vainqueur de la Coupe de France, qui est pas si lointaine, je crois, c'est 1996, il semble bien qu'elle soit complètement révolue, Vincent Duluc.
En fait, vous superposez deux notions qui sont vraiment passionnantes, mais qui peuvent apparaître contradictoires. D'une part, Auxerre, c'est le rappel que la magie du football repose sur son système pyramidal. C'est-à-dire qu'on peut partir tout en bas, arriver tout en haut, il n'y a pas de digue fermée et toutes les histoires sont possibles. Et ça, effectivement, elles sont de moins en moins possibles puisqu'il y a quasiment plus de clubs inédits qui remportent la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain pourrait être le prochain. Pour le reste, je pense pas que ça soit moderne, cette concentration du talent chez les plus riches. Le Real Madrid a remporté 6 Coupes d'Europe de 1955 à 1966 en concentrant tous les talents d'Europe de l'époque, plus Tsitsikas, Coppa, Di Stefano, de la même manière. Donc, de ce côté-là, je suis pas sûr que ça soit un travers moderne. Je pense que c'est un travers de toujours.
Il y a quelque chose d'amusant aussi, c'est que parce que vous avez parlé de Auxerre, et je me souviens très bien de cette période où les joueurs, parce que ça, c'est comment dire, les réservoirs des équipes étaient pleins de bons et de grands joueurs qui restaient évidemment sur la touche. Et je me souviens que Giroud avait récupéré comme ça. Je me souviens de Chiffaud, de Laurent Blanc, enfin, et avait composé une équipe avec des joueurs qui n'avaient plus leur place dans les équipes qui étaient vraiment composées des d'immenses joueurs et qui ne pouvaient pas tous les faire jouer. Et donc Auxerre avait réussi, enfin je parle sous le contrôle de Vincent, de Luc, mais avait réussi à obtenir un titre grâce à cette bonne tactique de la part de Giroud de récupérer des joueurs qui n'avaient plus leur place dans les autres équipes. De la même façon, moi je pense aujourd'hui, parce que j'étais un grand amoureux de Saint-Etienne dans les années de sa gloire passée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les grands clubs comme le Paris Saint-Germain ne peuvent plus garder les jeunes joueurs qui sont rachetés par d'autres clubs étrangers, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir une politique de formation, puisque bon, ils ne sont condamnés à avoir des stars. Et du coup, aujourd'hui, peut-être les autres joueurs qui sont partis du Paris Saint-Germain, qui brillent maintenant, je pense à Nkunku, à Coman, etc., eh bien, ils pourraient aujourd'hui former si on leur avait laissé le temps, ils pourraient revenir à cette époque où Saint-Etienne, les gens avaient le temps de grandir et de former la plus belle équipe, une des plus belles équipes d'Europe, non ?
Vincent Deluc.
Oui, ce que vous dites, André, est tout à fait juste. Le contre-argument au CERF à ce que j'exposais est effectivement assez pertinent, d'autant que, sans surprise, Auxerre a réussi son doublé Coupe de France, Championnat de France en 1996, qui est l'année même de l'arrêt Bosman. Et effectivement, ce qui change entre mon exemple du Real Madrid des années 50 et 60 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on avait droit seulement à deux ou trois étrangers. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette limite. Et du coup, il n'y a plus de limite à la richesse. Et concernant le PSG, effectivement, on verra de moins en moins de jeunes du PSG jouer au PSG. En revanche, on va les voir briller ailleurs et revenir en équipe de France. Et on a vu Moussa Diaby, on en a vu beaucoup d'autres. Parce qu'au moment où ils ont 19 ou 20 ans, il faut être au niveau du PSG actuel. Alors que c'est beaucoup plus facile de sortir dans un club formateur quand il suffit d'être au niveau du 3e ou du 4e du championnat de France. Et là, être au niveau des stars actuelles, c'est effectivement impossible, d'où l'exil et d'où une politique de formation qui est du coup un petit peu vaine et qui alors que ça pourrait être la base d'une identité parisienne durable.
Oui, alors restons-en justement à cette question de l'identité. L'arrêt Bosman effectivement rend tout devient possible. On peut avoir autant de joueurs étrangers dans une équipe qu'on veut. Et les joueurs cessent de plus en plus d'être fidèles à un club, comme pouvait l'être au moment à la glorieuse époque de Saint-Etienne, un joueur emblématique comme Rocheteau. Les joueurs, ils sont hors sol. Ils font partie de ce que David Goudart, dans un tout autre contexte, appelle l'élite des anywhere. Voilà, ils vont dans le club qui les arrange, qui leur fait les meilleures conditions, et ils pensent en ces termes. D'un autre côté, les supporters, eux, sont forcément enracinés. Ils vivent dans leur ville et ils veulent que leur ville brille, que ce soit Paris, que ce soit Newcastle, par exemple, qui vient d'être racheté à la grande joie des supporters par un fonds saoudien. Et c'est très étrange parce que on a l'impression que les supporters sont de plus en plus fanatiquement attachés à leur club. Ça, on le voit avec les violences sur les stades, alors même que les joueurs, eux, n'y sont pas attachés du tout, qu'ils suivent chacun son plan de carrière. Donc, si vous voulez, c'est les sommaires que sont les supporters se reconnaissent et s'identifient à des clubs formés exclusivement d'anywhere, de joueurs hors sol. N'est-ce pas l'un des paradoxes du football actuel, Vincent Deluc?
C'est un paradoxe et en même temps, c'est presque la logique de ce monde. C'est-à-dire que les supporters, incarnent la permanence, ils étaient là avant,
oui.
Ils sont là pendant et ils seront là après, alors que les joueurs ne font que passer. Mais simplement, les joueurs passent de plus en plus vite, et ils voilà. ont les mêmes origines qu'avant, ils n'ont pas les mêmes origines régionales. Pardon. Mais en revanche, ce qui reste, c'est le sentiment communautaire, c'est le sentiment clanique, il est toujours aussi fort. C'est-à-dire que les clubs de foot, c'est de plus en plus sensible en France, mais c'est extrêmement sensible en Grande-Bretagne. C'est vraiment une communauté, c'est une question clanique, c'est toujours nous contre les autres, quel que soit nous, quels que soient les autres. Et c'est quelque chose qui relie les gens malgré tout. Et effectivement, parfois les joueurs deviennent, pas forcément, j'allais dire un prétexte, mais en tout cas, ils nourrissent ce sentiment communautaire. Mais effectivement, ce sentiment s'épanouit pas forcément vis-à-vis d'eux individuellement, plutôt vis-à-vis du club en général.
Oui, c'est
André Dussolier.
Oui, non, c'est assez logique. Finalement, la fidélité, elle appartient à celle des supporters plus que de celle des joueurs. Et c'est assez logique parce que quand on suit, moi je sais pas, c'était mon cas, mais on suit l'équipe de son village. Et même si le village aujourd'hui est devenu Paris où j'habite, donc du coup, on est toujours supporter de l'équipe, y compris dans les moments les plus difficiles. Je me souviens, moi, j'étais supporter de Paris quand ils frisaient la chute en Ligue 2 ou en deuxième division. Donc du coup, c'est assez logique que les supporters soient toujours fidèles à leur club, quel que soit, comme vient de le dire Vincent, les joueurs qui composent l'équipe.
Oui, mais les joueurs, eux, ne sont pas fidèles. Donc c'est le nous des supporters. Y a-t-il vraiment un nous des joueurs? Par exemple, je voudrais mettre l'accent maintenant sur ce qui m'apparaît comme la nouvelle chorégraphie de l'Allégresse. Je me souviens que autrefois, quand un joueur marquait un but, il se dirigeait immédiatement vers les autres joueurs pour la grande accolade. Aujourd'hui, il se détache, il va vers une tribune, il glisse sur la pelouse, ou bien il a les jambes écartées et il se frappe la poitrine, ou bien il croise les bras, ou bien il tend l'oreille pour que les applaudissements du public soient encore plus forts. Et à ce moment-là, les autres joueurs vont vers lui, lui grimpent dessus pour manifester leur joie. Mais la première joie est individuelle. Le collectif suit. Et cela a à voir aussi avec l'individualisme des joueurs, pas forcément dans leur jeu, mais dans leur plan de carrière. C'est-à-dire, ils vont là où ça les arrange le plus, quel que soit le besoin que le club peut avoir d'eux. Alors, que pensez-vous de cette situation, André Dussolier?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai tout ce que vous décrivez là, et en même temps, les joueurs, bon, évidemment, c'est une carrière tout à fait singulière et personnelle, et c'est ça qui compte pour eux, quoi. Et c'est vrai que le club, j'ai l'impression, passe après. Leur intérêt, d'abord, est vraiment personnel. Enfin, je sais pas ce qu'on pense Vincent, mais c'est un peu leur carrière est pas forcément liée au club auquel ils appartiennent sur le moment.
Vincent Deluc.
En fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, la fidélité est relative, mais c'est aussi le système des transferts qui empêche cette fidélité. Avant, il y avait une seule fenêtre de transfert, c'était l'été. Désormais, il y en a deux par an, le mercato d'hiver et le mercato d'été. Jusqu'au début des années 70 en France, pour changer de club, les contrats avec les clubs étaient léonins et il fallait s'inscrire comme réfractaire auprès de la fédération pour avoir le droit éventuellement de partir dans l'hypothèse où deux clubs s'entendent, mais le joueur n'était jamais libre. Aujourd'hui, ce sont les clubs qui sont vendeurs. Ça fait partie du modèle économique des clubs, notamment des clubs français. Et parfois, des joueurs qui n'ont pas envie de partir reçoivent un coup de fil de leur président. Ils leur disent, écoute, un tel nous a proposé 20 millions, ça serait bien que tu y ailles. Donc, c'est un peu, voilà.
On va dire oui, en plus.
Les seuls responsables de leurs infidélités. En revanche, il y a quelque chose qui est très neuf dans le foot, c'est l'individualisation de la performance et de la préparation. Aujourd'hui, les footballeurs les plus riches, ce sont des petites PME. Ils ont un cuisinier, un diététicien, un kiné, un entraîneur personnel. Ils ont des équipes de parfois de 10, 15 personnes qui s'occupent d'eux. Et effectivement, ça va dans le sens. L'individualisation de la performance va évidemment dans le sens de l'individualisme tout court. Et ça, c'est un phénomène qui devient extrêmement difficile à régler pour les entraîneurs qui, eux, cherchent à créer un langage commun entre toutes ces individualités.
André Dusselier.
Oui, ce qui est rassurant pour la glorieuse incertitude du sport, c'est que malgré la qualité des joueurs individuels, hein, techniques qui s'est vraiment développée, c'est beau à voir, c'est vraiment des artistes, ben, c'est quand même, le foot, c'est quand même un jeu d'équipe. Et donc, vous pouvez bien additionner tous les talents que vous voulez. La preuve est souvent donnée comme ça avec les grands clubs, il y a une sorte de nivellement parce qu'ils achètent, mais enfin, c'est pas ça qui forcément compose la meilleure équipe qui soit. Donc, cette notion d'équipe, elle intervient à un moment donné ou à un autre. On voit bien que c'est quand même l'équipe qui sera toujours supérieure au talent singulier du joueur, même si les équipes fortes ont besoin du talent singulier des joueurs. Il y a une contradiction quand même qui fait que c'est rassurant de voir que il suffit pas d'entasser les très grands joueurs pour former une belle équipe.
Vincent Deluc.
Oui, absolument. C'est la vieille ancienne des sélectionneurs qui doivent faire une liste de 22 ou désormais de 23 pour une Coupe du Monde et qui rappellent que la meilleure liste ne sont pas les 22 ou les 23 meilleurs joueurs. C'est la meilleure équipe possible. Et effectivement, il y a des grands talents qui déséquilibrent le langage commun d'une équipe. Et on voit bien actuellement qu'au Paris Saint-Germain, le PSG n'arrive pas à trouver ce langage commun, que collectivement ça reste très pauvre, que ça reste une équipe de grands talents, mais qu'un seul joueur, Kylian Mbappé, fait gagner actuellement. Donc c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup d'individualités, pas beaucoup de collectifs, et malgré tout, c'est une individualité parmi les autres qui continue à faire la différence. Mmh. Pour l'entraîneur, c'est une situation extrêmement difficile.
Alors, et puis il y a aussi cette mondialisation du football, jusque dans les championnats nationaux. Ce que je remarque notamment, c'est qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs qui, lors de leur conférence de presse, s'expriment dans leur langue natale, avec des sous-titres. Qu'il s'agisse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, de l'entraîneur de Marseille, et d'autres encore. Et je ne sais même pas si le français est la langue la plus employée dans les vestiaires, et notamment dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. C'est assez singulier comme situation, non? Ça suit peut-être aussi l'évolution générale de notre monde vers cette globalisation. Vincent Deluc.
Oui, mais là effectivement, ça tout part de l'entraîneur. Quand Arsène Wenger était entraîneur d'Arsenal et qu'il y avait 6 ou 7 Français dans le vestiaire, il interdisait à ces Français de parler dans le vestiaire, il leur demandait de parler anglais. Et Arsène a régulièrement eu des récompenses pour son vocabulaire remarquable en anglais, pour la manière dont il s'exprimait en public. Aujourd'hui, effectivement, quand on voit Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, alors qu'il a joué 2 ans ou 3 ans au PSG, il a encore joué à Bordeaux d'ailleurs, donc il a vécu 4 à 5 ans en France. Et au bout d'un an à Paris, il ne veut toujours pas prendre le risque, ou en tout cas, il daigne pas parler français. Ça pose un vrai problème. Mais le problème remonte à loin. Le jour de la présentation de Lionel Messi cette saison dans les entrailles du Parc des Princes, Nasser El Khelaifi a fait une première phrase de présentation en français, et il a fait tout le reste de la conférence de presse en anglais pour bien souligner que le PSG était une marque mondiale, et pour bien souligner aussi que la Ligue 1, le championnat de France, n'intéressait pas.
Une marque, ça, le mot est très intéressant. Le Paris Saint-Germain est une marque. André Dusselier.
Oui, non, ce qui est même étonnant, c'est que, par exemple, Kylian Mbappé, joueur extrêmement talentueux et puis qui a beaucoup de talent par ailleurs, a appris l'espagnol très bien et il parle espagnol dans le vestiaire du Paris Saint-Germain parce qu'il y a une majorité de joueurs qui parlent cette langue. Donc, évidemment, c'est toujours, aujourd'hui, des clubs, on est très très loin de l'époque que j'ai connue, en effet, et ça évolue et je ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter parce que c'est fou que ce soit l'argent quand même qui détermine. Mais en même temps, il y a toujours cette incertitude qui fait que l'argent ne peut pas tout gagner.
Évidemment. Mais vous parlez d'Arsène Wenger, qui en effet a un côté old school, et c'est pour ça qu'on l'aime. Or, il est devenu le porte-parole d'une idée qui d'ailleurs, je crois, fait peur au journal L'Équipe, comme à beaucoup d'amateurs de football, qu'il y ait une Coupe du Monde tous les deux ans. Une idée qui est choisie sans doute parce qu'elle peut être rentable. Alors, que pensez-vous de cela? Vers quoi ça nous mène, Vincent Deluc?
Écoutez, j'avais passé une soirée, c'est moi qui avais fait l'interview dans L'Équipe, dans laquelle Arsène Wenger... Donc de révéler un peu la volonté de la FIFA d'avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans. J'avais passé toute la soirée avec lui, il avait essayé de me convaincre. je dis pas qu'il y était parvenu, mais il y avait certains de ses arguments qui me touchaient. C'est-à-dire que, en gros, c'était quel football on veut si on n'a pas de Coupe du Monde tous les deux ans. Ce sont les clubs qui vont organiser quelque chose d'autre, qui vont occuper le calendrier. Aujourd'hui, on voit bien que le public se détache un peu des matchs amicaux de l'équipe de France, etc. Malgré tout, nous on est contre parce que effectivement, la beauté de la Coupe du Monde est dans sa rareté et dans la frustration que qu'on a ratune, on reste 8 ans sans Coupe du Monde. Et moi, je fais partie d'une génération qui a grandi et qui n'a pas eu de Coupe du Monde entre 1966 et 1978. Et quand la France de Platini s'est qualifiée à l'automne 77, j'avais 15 ans et j'étais absolument fou de joie. Donc pour moi, la Coupe du Monde est sacrée et l'organiser tous les deux ans, ça la désacraliserait. D'autant qu'il me semble que les intentions d'Arsène Wenger étaient assez pures. C'était, on veut voir le meilleur du foot plus souvent, c'est ce qu'il pouvait s'entendre. On en a marre des saisons de clubs qui sont sans arrêt coupées par une semaine internationale, parfois sans intérêt, pour jouer contre le Kazakhstan ou contre une nation vaguement exotique pour d'autres continents. Donc ça reposait sur quelque chose. Mais depuis, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dit que la Coupe du Monde pourrait avoir lieu tous les deux ans, mais que les nations ne pourraient pas participer à 2 Coupes du Monde de suite. Donc en fait, il a complètement torpillé l'idée et les arguments d'Arsène Wenger pour en faire quelque chose de purement électoraliste et de sans intérêt.
André Dussolier. Non, puis ce qui est inquiétant aussi là-dedans, alors peut-être que les joueurs sont complices de cette intention, mais c'est que les joueurs vont y perdre leur santé. Enfin, je sais pas, ils vont à multiplier les matchs comme ça. D'abord, le public va se désintéresser un peu parce que
c'est ce qu'on
vous
l'avait
dit. Va se lasser parce que, comme vous dites, c'est la rareté qui fait le plaisir, l'attente et la joie quand même d'assister à des matchs exceptionnels. Mais je pense aussi que les joueurs qui peut-être vont y gagner encore plus d'argent, je ne sais pas, mais ils vont avoir des carrières un peu plus courtes parce que ils vont être sujet à des accidents musculaires encore plus nombreux. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on tient plus compte de l'élément sportif.
Oui. Et alors, là, maintenant, je voudrais qu'on en vienne à cette question qui devient lancinante, celle du retour de la violence dans les stades. Je m'étonnais tout à l'heure de cet attachement des supporters pour des équipes composées de joueurs qui n'en ont à peu près rien à foutre du club dans lequel ils évoluent. Mais cet attachement va maintenant jusqu'au fanatisme et jusqu'à la violence. Ça a commencé au début du championnat. Je crois qu'il y a eu encore des incidents hier lors du match Saint-Étienne-Angers. D'où vient cette recrudescence? Comment l'explique-t-on? Est-ce aussi que, encore, cela reflète la violence dans la société en général? Vincent Deluc.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Et d'abord que, ainsi qu'on le voit parfois dans la rue, que la violence virtuelle, via les réseaux sociaux, devient de la violence réelle, inévitablement, à un moment ou à un autre. Et dans les tribunes, il y a quelque chose qui est troublant, c'est que c'est une violence qui s'exerce, en fait, soit contre l'adversaire, soit contre sa propre équipe, pardon.
Oui, c'est vrai.
On voit bien qu'à Saint-Étienne, c'est une violence qui s'exerce contre le pouvoir, contre la double présidence. Il y a deux présidents depuis de longues années, Roland Romeyer et Bernard Caillazot, et contre l'entraîneur, Claude Puel. Et que c'est une violence qui est quasi autodestructive, puisque les incidents de Saint-Étienne-Angers resteront sans doute pas sans sanction, que Saint-Étienne pourra peut-être perdre son match pour pénalité, une sanction de ce genre. Et c'est quelque chose qu'on a vu, effectivement, lors du match Nice-Marseille, la violence était entre supporters niçois et joueurs marseillais. C'était un peu plus classique, mais donc on peut considérer qu'en fait, ce qui est commun et ce qui reste, c'est la violence et que tout le reste est un prétexte.
Oui, alors c'est une violence qui ne met pas simplement face à face les supporters des deux équipes, mais qui peut de plus en plus viser les joueurs eux-mêmes, comme on l'a vu dans plusieurs matchs. André Dussolier.
Oui, ce qui m'a frappé aussi dans le match qui a eu lieu hier, c'est que la Ligue professionnelle voulait arrêter le match parce que c'était plus supportable et c'était dangereux, et que la préfète a voulu que le match reprenne. Parce que sans doute, elle craignait que les débordements, suite à l'arrêt du match, les débordements se poursuivent à l'extérieur du stade. Je pense que ça a été ça son réflexe. Donc du coup, on a l'impression que la violence elle dépasse les frontières du stade dès que l'occasion se présente.
Oui. Alors, on n'en aura pas fini, sans doute, avec problème, même si on décide d'exclure des stades les supporters les plus excités. Je voudrais maintenant vous citer une phrase d'un ancien rédacteur en chef du Miroir du football, François Desbault, phrase elle-même citée par Jean-Claude Michéa dans son livre « Les intellectuels, le peuple et le ballon rond ». Parce qu'elle porte sur une question qui me passionne, l'évolution du jeu. Voici ce que dit François Desbault. On admettait naguère qu'on pratiquait un jeu de qualité, on pouvait perdre un match, mais on considérait ce type d'événement comme un accident, et la seule recette intelligente pour obtenir régulièrement de bons résultats était la pratique du meilleur jeu possible, c'est-à-dire d'un jeu où l'esprit de création, l'intelligence tactique, la maîtrise technique, le plaisir de jouer étaient des éléments essentiels. Aujourd'hui, le jeu est devenu une notion inutile et encombrante, à partir du moment où le poids des intérêts financiers drainés par le football a eu comme conséquence immédiate l'accès à sa tête de gens déterminés à implanter dans sa gestion l'idée que seul le résultat compte et que les moyens pour l'obtenir en dehors de l'argent se nomment le travail, l'effort pénible, la souffrance et éventuellement la ruse et la brutalité. Et Jean-Claude Michéa commente une telle critique met en lumière la façon dont le capital moderne dénature méthodiquement, les fondements non seulement populaires mais également humains du football. Est-ce que vous reprenez cette critique à votre compte, Vincent Duluc ?
Mais c'est passionnant, mais c'est pas étonnant parce que François Desbault était passionnant. J'ai beaucoup lu avec tous ses amis du Miroir du foot. On savait qu'à la fin des années 60, il y avait une presse de football de droite qui était plutôt l'équipe et France Football et qui défendait le marquage individuel et une presse de football de gauche qui était le Miroir du foot. Et qui défendait la défense en ligne.
Donc, c'est très joli, ça.
Une certaine idée du jeu. Néanmoins, j'ai toujours un petit problème. Et maintenant que j'ai bientôt l'âge d'être un vieux con, si on me pardonne, j'ai toujours...
Ah, bienvenue au club.
J'ai toujours l'impression qu'il y a une confusion entre la nostalgie de sa propre jeunesse et la nostalgie du jeu. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a toujours des entraîneurs qui ont une quête quasi esthétique et qui nous enchantent. Quand on voit ce que Guardiola fait de la richesse de Manchester City, c'est une démarche du jeu. Il est même tellement entêté à voir le jeu comme un absolu que parfois il fait des choix stratégiques qui le pénalisent dans les grands matchs. Souvent, on a l'impression que quand il arrive en demi-finale de la Ligue des Champions ou en finale de la Ligue des Champions, il veut inventer quelque chose au lieu de profiter de sa supériorité qui est là avec un trophée qui lui tend la main. Mais ça ne suffit pas. Il veut autre chose. Il veut comme c'est un grand jour, il veut une grande idée et c'est parfois ce trop plein d'idées qui peut le pénaliser. Il me semble que dans les années 60, on peut ne pas avoir la nostalgie du jeu extrêmement fermé des années 60 des équipes italiennes entraînées par Elenio Herrera, de cette invention du béton. Je crois que chaque époque a une révolution du jeu. Le Real et le Reims dès la fin des années 50 qui jouaient. Dans les années 70, on a eu l'Ajax qui avait un football total magnifique et peut-être que le
Bayern
qui a suivi derrière était un peu plus cynique. Donc je pense qu'il y a comme ça une alternance. Le Barça des années 2010 a été un enchantement collectif. On parlait de langage commun un peu plus tôt dans l'émission. Mais là, ça a été quelque chose de vraiment de rarement vu au niveau collectif. Donc je pense qu'il y a toujours des recherches parallèles entre des entraîneurs pragmatiques et des entraîneurs dogmatiques et le match entre le dogme et la simple recherche de l'efficacité, je pense qu'il est intact et qu'il n'a pas beaucoup changé.
André Dussolier.
Oui, enfin, je pense que c'est pas en détruisant le jeu qu'on peut de toute façon gagner un match. Cette stratégie, elle a fait long feu. Donc du coup, il y a quand même toujours, et l'exemple que prend Vincent de Guardiola est tout à fait éloquent et juste aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le plus fair-play des entraîneurs. On voit qu'il n'est pas, il est amoureux du beau jeu et donc il exploite chez chacun de ses joueurs la manière de composer la meilleure équipe possible et de créer le plus beau jeu. Et c'est ça qui fait aussi que c'est chatoyant, mais beau et efficace aussi. Donc c'est réconfortant de voir que le beau jeu sera toujours aussi lié à l'efficacité.
Alors oui, pour aller dans votre sens, il me semble aussi que les joueurs aujourd'hui jouent mieux. C'est-à-dire que il me semble, si on prend 58, la génération Fontaine, Coppa, et même la génération beaucoup plus tardive des années 80, Platini, Giresse, Tigana, il me semble que le football contemporain est plus exigeant. Et par exemple, on ne voit plus jamais de longs dégagements. C'était la grande pratique anglaise qui faisait rire tout le monde. On dégageait n'importe où, etc. Comme ça, l'équipe pouvait avancer. Les joueurs sont devant leur gardien de but, dans la surface de réparation, et ils font des petites passes à la demande de l'entraîneur pour précisément sortir du piège tendu par les autres joueurs et ne jamais lancer le ballon n'importe comment. Et d'un autre côté, il me semble aussi que le jeu s'uniformise. Parce que Vincent Deluc, vous parliez de cette époque en effet extraordinaire, Cruyff et le football total. Et c'était, je crois, la Coupe du Monde 74, où la Hollande a fini par perdre. Mais elle jouait différemment. C'est-à-dire, personne ne jouait comme l'équipe néerlandaise de l'époque. Football total, tout le monde avançait, tout le monde reculait, personne n'avait jamais vu ça, on n'en croyait pas nos yeux. Et en plus, il y avait aussi, après le jeu du Football Club de Barcelone, qui était unique. Alors, il me semble maintenant, d'ailleurs, Guardiola est allé au Bayern, maintenant il est à Manchester City, c'est donc, en fait, c'est un peu le même jeu qui est pratiqué partout. Il n'y a plus d'originalité folle d'une équipe par rapport à une autre. D'un côté, amélioration, et de l'autre côté, quand même, uniformisation. Que pensez-vous de cette analyse qui est peut-être très, très approximative, Vincent Deluc?
Non, je la trouve très pertinente. Non, absolument. Non, mais c'est un phénomène nouveau, mais qui est effectivement lié à la médiatisation. Aujourd'hui, avant, il y avait des écoles du jeu, parce que pour découvrir ces écoles du jeu, il fallait voir des matchs en Coupe d'Europe et en envoyer un par an. Tout d'un coup, on découvrait, au milieu des années 70, le Dynamo Kiev de Valérie Lobanovsky avec Oleg Blokhin, et on voyait un jeu de transition, comme on dit aujourd'hui, mais à l'époque, on disait de contre-attaque, absolument fascinant, avec des courses qu'on n'avait jamais vues, avec un mouvement nouveau. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'école parce que dès qu'une équipe développe une originalité, ben cette originalité cesse de l'être puisqu'elle est copiée quasiment dans l'instant. On voit bien qu'il y a des modes dans les organisations. En ce moment, on revient vers une mode des défenses à trois. Les entraîneurs sont comme ça imprégnés par ce qu'ils voient. Et Chelsea vient de remporter la Ligue des Champions qu'une défense à trois. Et six mois après, l'équipe de France joue avec une défense à trois. Donc effectivement, il y a beaucoup moins d'école, beaucoup moins d'originalité, beaucoup moins de différence. Mais c'est dû non seulement à la médiatisation, mais c'est dû aussi à la circulation des footballeurs. C'est-à-dire qu'avant les footballeurs tchécoslovaques, ils restaient en Tchécoslovaquie, et aujourd'hui, ils jouent tous en Angleterre, ou en Espagne, ou en France, ou au Portugal, ou un peu partout. Et donc, effectivement, on se dirige de plus en plus vers une pensée unique. Après, la force du foot par rapport à tout ça, pour revenir sur la première partie de votre intervention, c'est que l'évolution des règles permet aussi l'évolution. C'est-à-dire que l'interdiction, quand on regarde des matchs des années 70 et 80, on voit que la passe en retrait au gardien fermait complètement les matchs. Aujourd'hui, l'interdiction de la passe en retrait, du moins l'interdiction de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait, participe au mouvement général du foot. Et c'est quelque chose que le foot a su faire. Aujourd'hui, on voit que les équipes relancent beaucoup de derrière, parce qu'on peut désormais faire des passes à l'intérieur de la surface sur la remise au 6 mètres. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui participent au mouvement général.
C'est vrai ce que dit Vincent. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que tous les joueurs, y compris les arrières, alors que parce que vous faisiez allusion au long dégagement, etc., mais maintenant c'est proscrit, et on a l'impression qu'ils sont devenus des virtuoses. C'est-à-dire, c'est très, moi je frissonne en tant que supporter quand je les vois faire des passes à l'intérieur de la surface de réparation ou bien relancer le jeu de leur équipe depuis l'arrière en faisant des petites passes comme ça. Mais c'est vraiment très impressionnant et très beau à voir. C'est presque une technique d'attaquants, quoi, que les arrières possèdent aujourd'hui. Donc, mais par contre, quand on a passé cette ligne médiane, j'ai l'impression que quelquefois, Le football, alors c'est peut-être sévère ce que je vais dire là, parce qu'il y a toujours des actions individuelles qui sont vraiment impressionnantes, mais on a l'impression que le football devient un peu, ressemble un peu au handball, c'est-à-dire que on a l'impression que l'équipe adverse défend en zone, et puis l'équipe qui attaque a du mal à trouver des espaces, c'est-à-dire que toute la technique s'est déplacée plutôt vers l'arrière quand il s'agit de faire repartir le jeu, mais qu'à l'avant ça stagne un peu, voilà.
Et alors, d'un autre côté, vous parliez du poids de l'argent, l'un et l'autre, sur le football aujourd'hui, mais c'est un argent qui ne vient pas de n'importe où. Je faisais référence à l'équipe de Newcastle, rachetée par un fonds saoudien, à la grande joie des supporters, alors même que tous les amateurs de football en Angleterre sont tristes et s'arrachent les cheveux. Il en est de même à Paris avec le Qatar, à Abu Dhabi pour Manchester City, donc c'est très surprenant, cette emprise venue des États pétroliers, c'est le soft power, et en même temps le Qatar finance aussi très généreusement les frères musulmans, est allié aux talibans, donc ça fait bizarre. C'est aussi un paradoxe personnel, parce que je n'arrive pas à ne pas aimer le Paris Saint-Germain, je suis très triste quand le Paris Saint-Germain perd, je serai très heureux s'il gagne demain à Marseille, match où les supporters parisiens ne peuvent même pas aller par peur des incidents. Donc je reste habité par ce que Olivier Guèze appelle très joliment une passion absurde et dévorante. Vous aussi, Vincent Duluc?
Et est-ce que moi aussi j'ai une passion absurde
et dévorante? Est-ce que c'est aussi une passion absurde et dévorante qui vous habite pour le football?
Bien sûr, je continue d'avoir cette chance infinie, peut-être un peu moins là avec le Covid, mais malgré tout en moyenne, je vois à peu près entre 80 et 100 matchs par an dans les stades, et je continue chaque fois de me diriger vers un stade avec le souvenir, comme disait Clémenceau, le bonheur commence dans l'escalier. Et surtout avec ce sentiment que je vais peut-être voir un match fantastique, et j'ai toujours la même excitation. C'est un peu comme quand on va au cinéma et que la lumière s'éteint. Et ben quand je rentre au stade, j'ai ce sentiment-là. Il y a une minute comme ça où tout est magnifique, où tout est merveilleux, et je continuerai de chercher cette minute-là pendant longtemps. Oui, bien sûr.
Et André Dusselier, pareil.
Pareil. Je me souviens de cette phrase de Bertolt Brecht qui disait que le match de foot dans un stade était la plus grande pièce de théâtre à laquelle on pouvait assister. C'est-à-dire qu'on connaît tout le public qui est là, connaît les règles, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et il y a un enthousiasme débordant qu'on voit dans le plus grand des théâtres. Donc ça existera toujours.
Ça existera toujours. Et d'un autre côté, ce qui caractérise le sport moderne, c'est le culte de la performance. Altius, situs, fortus, toujours plus vite, plus haut, plus fort, disait Pierre de Coubertin, et il disait que, parlant du football justement, que c'est l'éducation du va de l'avant. La modernité, c'est le progrès, le football incarne justement ce dépassement continuel, à la limite répliqué par l'enjambé, disait Victor Hugo. Or, nous sommes entrés aujourd'hui, pour tous les sports, et notamment le football, dans l'âge de la démesure. Et donc, nous sommes ramenés, malgré nous, parce que c'est pas un réflexe de moderne, à nous poser la question des limites. Rien de trop, disaient les anciens. Or, peut-être y a-t-il trop de matchs, peut-être y a-t-il trop d'argent, sans compter les problèmes liés au dopage, qui ne se posent peut-être pas de la même façon dans le football qu'ailleurs, et encore. Donc, tout d'un coup, on se dit, ben oui, il faudrait aussi mettre des limites. Ne pensez-vous pas cela, Vincent Duluc?
Oui, je pense ça, mais en même temps, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives de l'équipe de France Football, du miroir du foot. Et c'est des questions qui agitaient déjà nos prédécesseurs il y a 40 ans.
Ah bon ?
Ils estimaient déjà qu'il y avait trop d'argent dans le football, que le foot prenait une mauvaise pente. Simplement, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup plus d'argent. J'avais travaillé au moment de justement sur les Verts 76. J'avais regardé qu'en 76, les footballeurs Saint-Etienne gagnaient 20 fois le SMIC. Et que c'était également le salaire de l'époque des grands patrons. Et aujourd'hui, par un parallèle assez fascinant ou inquiétant, Les grands patrons, le salaire des grands patrons et des footballeurs s'est augmenté de manière parallèle, mais il représente aujourd'hui 400 fois le SMIC. Donc effectivement, et encore, ça je l'ai fait il y a 5 ou 6 ans, donc on peut imaginer qu'on est plutôt à 500 fois aujourd'hui.
Oui, mais Messi et Neymar gagnent beaucoup plus qu'un grand patron, non? Il me semble.
Oui, mais je parlais du salaire moyen.
Ah oui, c'est ça. Le salaire moyen d'un footballeur équivaut au salaire d'un grand patron, c'est ça que vous nous dites?
Pas un salaire moyen, mais on va dire les
salaire moyen au PSG.
Et les 20 plus grands joueurs, là, je pense qu'on doit pouvoir trouver à peu près un parallèle avec ça. Mais l'avantage du foot, je trouve, à travers le temps, effectivement, on s'interroge sur ses limites, mais c'est vrai que sur d'autres sports, il y a une mesure qui est celle des records, par exemple en athlétisme, en natation. Ces records nous laissent... j'ai un sentiment de malaise, parce qu'effectivement, oui, il y a le dopage, ou alors l'amélioration de la technique, on le voit aujourd'hui avec ses chaussures pour le marathon. En foot, au moins, la comparaison reste ouverte. On ne sait toujours pas si Pelé est meilleur que Messi, si Cristiano Ronaldo est meilleur que Maradona, et c'est quelque chose qui reste en l'air, c'est quelque chose qui fait encore la beauté du foot, ce qui fait qu'effectivement, on veut toujours aller plus loin, mais la question de la suprématie absolue du plus grand joueur, par exemple, le plus grand joueur de l'histoire du foot, eh bien, elle reste en l'air et elle n'est pas tranchée.
Oui, c'est vrai, autrefois on admirait les records, et maintenant ils nous font peur. Quand un champion d'athlétisme courra le 100 mètres en moins de 9 secondes, on se dira qu'il a été transformé, qu'il est post-humain. Donc on voudrait même que ça ralentisse un peu, qu'il s'agisse de la natation ou de l'athlétisme. C'est vrai, c'est vrai. On avait le culte de la performance, et aujourd'hui, la performance inquiète, précisément, parce que là encore, on est entré dans l'ère de la démesure. André Husselier.
Non, l'impression que la limite, c'est aussi lié au fait que c'est un jeu d'équipe. Là, vous parlez de sportifs qui sont individuels, mais qui peuvent faire des exploits et battre des records. Mais la limite, ce sera aussi le jeu d'équipe, et c'est rassurant un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut bien encore assister à une surenchère d'argent ou de talent. Il n'empêche que c'est quand même un jeu qui se joue à 11 et que là, il y aura toujours une incertitude, il me semble.
Toujours une incertitude et puis toujours la nécessité, justement, de jouer en équipe pour l'équipe. Et là, on revient à la phrase d'Albert Camus. Il nous reste 2 minutes, donc je vais vous poser une question post-scriptum, Vincent Deluc, parce que la technique aussi a envahi le football. La technique, c'est-à-dire l'arbitrage vidéo. Personnellement, j'y étais favorable, parce que le spectateur avait droit à la vidéo, mais pas l'arbitre, ce qui fait que le spectateur en savait plus que l'arbitre et pouvait l'insulter, comme maintenant l'insulte a vraiment une place royale dans les stades. Cette dissymétrie était insupportable. Mais on voit aussi que le VAR, comme on dit, a ses limites. Alors, quelle est votre opinion aujourd'hui, Vincent Deluc?
Mais je trouve que l'outil n'est pas assez abouti pour compenser la perte d'émotion primaire qu'on peut avoir. En fait, moi, ce que j'aime dans le foot, c'est être immensément triste ou être immensément joyeux. Et aujourd'hui, on ne peut plus être ni l'un ni l'autre, puisque de toute façon, il faut attendre à peu près 1 minute, ou parfois 2 minutes 30, et parfois 5 minutes, pour savoir si on peut être triste ou si on peut être joyeux. Et ça, je trouve que c'est une perte assez irréparable, qu'en tout cas, et que les atermoiements de la VAR ne suffisent pas à réparer pour l'instant.
Oui, mais d'un autre côté, le téléspectateur, lui, voit l'image et il voit ce que qu'il y a eu hors jeu. Et si l'arbitre siffle le but alors qu'il dit que le but est valable alors qu'il y a eu hors jeu, le public, même dans les stades, puisqu'il a son téléphone portable, est hors de lui et il est dans une colère. Donc il y a toujours, quand même, sans le VAR, il y a cette dissymétrie dont je parlais, qui pose un problème, non? Parce que la technique, elle est là. Et si elle n'est là que pour le public et pas pour l'arbitre, on a une difficulté.
C'est vrai, mais ça désacralise le but en faisant une affaire qu'on va régler dans 1 minute ou dans 2 minutes. Parfois, il y a une équipe à domicile qui va jouer 2-3 matchs en 2 mois et elle va rester 2 mois sans marquer. Et après, au bout de 6-7 heures, les supporters, tout d'un coup, vont voir un but. ils sauront même pas s'ils auront droit d'en être contents. Et je trouve que cette transformation de l'expérience du stade, parce qu'en plus le spectateur au stade en revanche est complètement exclu de ces images-là, je trouve qu'elle a un prix trop élevé pour l'instant.
Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que on pensait que la VAR, je sais pas, allait être un outil vraiment factuel. Enfin, c'était formidable, c'était rassurant. Et en fait, pas du tout. La limite de la VAR, c'est qu'elle est interprétée par les hommes, quoi. Aussi, par les arbitres et par les gens qui sont dans le car de vidéo. Donc, du coup, on en revient même au départ, quoi. C'est comme si vraiment, on attend, comme dit Vincent, 10 minutes que la décision soit prise. Mais la décision prise n'est pas forcément bonne.
Oui, c'était le cas d'ailleurs, je crois, pour le dernier match du Paris Saint-Germain. Mbappé a obtenu un pénalty, il a gagné, et il semblerait que le pénalty, disons, confirmé par la vidéo, oui, était très litigieux.
Et le directeur des arbitres a fait amende honorable en disant qu'il y avait une erreur
d'arbitrage. Ah oui, même. Oui. Ah oui, carrément. Bon, bah, écoutez... On n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, merci beaucoup à l'un et à l'autre, Vincent Deluc, André Dussolier. J'ai trouvé votre conversation absolument passionnante. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Dimitri Paz. Dans la très belle lettre qu'elle vient de m'envoyer, une consoeur du Quai Conti m'a confié son espoir que Réplique ne privilégie pas les ombres au détriment de la lumière. La semaine prochaine, j'essaierai d'exaucer ce vœu. L'émission sera consacrée à l'œuvre romanesque de Michel Bernard, un écrivain mélancolique et lumineux. Mes invités seront Michel Bernard lui-même et Étienne de Montetti. Dans un instant, Concordance des temps de Jean Nonel Jeannonet.